Louer et remercier soit le Seigneur pour le privilège que nous avons de pouvoir être de nouveau ici, pour adorer, remercier Dieu, écouter la parole et nouvellement nous laisser bénir. Nous avons chanté « Jésus est ici, Jésus est là » et nous nous demandons où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il se tient, où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il est. Et je peux vous dire exactement où est-ce qu'il est ce soir. Si il est ici, je peux vous dire exactement, très exactement, il est dans ton cœur et dans mon cœur. La chose est si simple que ça. Hein? Alors que le Seigneur marchait sur cette terre, Dieu était en lui là où il était. Et il pouvait dire, ce n'est pas moi qui fais ses œuvres, mais le Père qui habite en moi, qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Et si vous ne croyez, si vous ne me croyez pas, croyez aux œuvres. Et celui qui autrefois voulait chercher Dieu, il devait le chercher là où il est, c'est-à-dire en Christ. Pas dans le temple, pas dans les synagogues, mais en Christ. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Maintenant, Christ est en nous. Et si nous venons à une réunion, alors, nous devons venir avec lui dans nos cœurs, à la réunion. Alors, il est présent. C'est comme ça qu'il est dans la réunion. Si nous pensons que le Seigneur est là où deux ou trois sont réunis, il va descendre par le toit et puis descendre parmi nous. Vous allez attendre ça longtemps. Nous devons être conscients que, aux yeux de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pas un bâtiment, mais un temple vivant, c'est-à-dire toi et moi. Autrefois, le Seigneur était le temple. Et il disait, détruisez ce temple et je le reconstruirai en trois jours. Les hommes n'ont pas compris. Ils pensaient qu'il parlait du bâtiment qui a pris 46 ans pour être construit. Non, il parlait du temple de son corps. Et il pouvait dire, tu m'as préparé un corps, tu m'as formé un corps, me voici au Dieu pour faire ta volonté. Et de ce qu'il a offert son corps en sacrifice et qu'il a, son âme a souffert et qu'il a versé son sang, c'est ainsi qu'il s'est créé, il s'est formé un corps, c'est-à-dire l'Église. Nous sommes membres les uns les autres et formons ensemble le corps du Seigneur. Et Dieu doit habiter en nous, demeurer en nous, vivre en nous. Je le répète encore, si il doit être présent là où deux ou trois sont réunis, alors il faut qu'avec toi et avec moi, ici, il puisse entrer dans cette pièce, dans ce bâtiment, là où nous nous réunissons. Et c'est de là que vient la relation entre lui, du ciel avec la terre, et de la terre au ciel. Notre Seigneur, autrefois, alors qu'il priait, il a dit, j'ai fait à cause, je l'ai fait à cause de ceux qui sont ici. Il savait que Dieu était en lui, que Dieu est en lui, et que toutes choses peuvent avoir lieu, et que toutes choses sont possibles. Mais malgré tout, il a prié. Il a prié. Et il disait, je l'ai fait à cause de ceux qui sont ici. Vous qui êtes ici mercredi, vous avez vu ou vous avez vécu ce que Dieu a fait. J'étais très heureux dans mon cœur. Je souhaiterais qu'en ce moment, de nouveau, je pourrais être encore si heureux comme je l'ai été mercredi. La présence de Dieu était ici. Et alors, je vous pose la question, en quoi est-ce que nous avons remarqué que le Seigneur était ici? Avons-nous ouvert les yeux et vu quelque chose? Non. La présence de Dieu est manifestée dans les siens, par les siens. Le royaume de Dieu ne vient pas avec des choses extraordinaires, visibles. Le royaume de Dieu est en nous. Et ça, nous devons le comprendre. Donc, pas seulement que nous venions à la réunion et que nous pensions, bon, voilà, le Seigneur a dit, là où deux ou trois sont réunis, il est parmi eux. Nous devons comprendre que Dieu veut se révéler, veut se manifester, mais qu'il veut utiliser des hommes, des personnes, des gens comme toi et moi. Des gens qui sont dépendants de son secours, de son action, de son aide, qui ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Des hommes à qui, ou bien par qui, il peut recevoir ce qui lui revient de plein droit, il reçoit ce qui lui revient de plein droit et à qui il peut parler. Nous allons de nouveau écouter une parole et observer une parole du Seigneur. Je pense encore à 1 Corinthiens chapitre 4. Et mes yeux sont tombés sur 1 Corinthiens 3. Ici, il est écrit cette parole, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Restons ici d'abord un moment. Et la première question est que Dieu puisse et à nous tous, qui puisse nous blottir dans un coin duquel nous ne pouvons plus sortir, en sortir, si ce n'est que il nous en fait sortir. Si nous lisons ici, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, la première question que vraiment, de tout notre cœur, nous devons nous poser, sans critiquer des autres, ou bien nous critiquer nous-mêmes, mais comme une simple constatation, est-ce que cela est seulement écrit ici, ainsi, décrit ici, ainsi dans la Bible, ou bien est-ce que cela est ainsi dans ma vie aussi? Est-ce que nous faisons que répéter ce que Paul a adressé autrefois à des croyants avec lesquels autrefois cela était une réalité dans leur vie, ou bien alors est-ce que nous sommes aussi aujourd'hui de tels croyants en qui cette parole aujourd'hui est vraie, est réelle, telle qu'autrefois elle était vraie et réelle aux croyants à qui Paul avait adressé cette épître? Vous remarquez sûrement que la parole de Dieu, n'est-ce pas, n'est pas adressée, ne passe pas comme ça à droite et à notre droite et à notre gauche et non plus au-dessus de nos têtes, mais que nous sommes concernés et que la parole de Dieu doit et veut pénétrer notre cœur. Ne savez-vous pas, question, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous pour pouvoir être le temple de Dieu? Cela doit être ainsi. Il faut que l'Esprit de Dieu habite en nous pour que nous soyons un temple de Dieu. Cela ne peut pas être seulement écrit sur du papier en tant que réalité. Il faut que, en tant que réalité, cela soit aussi dans ton cœur, dans ta vie, que là, cela doit être manifesté. La parole doit devenir chair. Elle doit trouver son accomplissement en toi et être manifestée et révélée par la grâce de Dieu par toi. Ce qui est écrit doit s'accomplir en toi. Et je pense que c'est ce que Dieu veut faire maintenant. Et pas seulement une onction. Dans la dernière lettre circulaire que vous avez tous reçue, sinon, si ceux qui ne l'ont pas reçue, elle est à l'entrée, sur les tables. J'ai mentionné dans cette lettre circulaire que Frère Branham a exposé très clairement que l'Esprit de Dieu peut tomber sur tous, mais ça ne veut pas encore dire qu'il a pris demeure en toi et en moi, qu'il est venu pour rester, pour vivre, pas seulement te visiter, pas seulement être visité par l'Esprit, ou bien alors être loin de l'Esprit, mais habité par l'Esprit. Et l'Esprit demeure, vit et reste en toi et chaque parole que nous écoutons pour qu'elle puisse être vivifiée et devenue réelle et pratiquée par l'Esprit de Dieu. Et pas seulement qu'on écoute la parole, pour que la parole de Dieu qu'on écoute, qu'elle soit confirmée en nous. Seulement là où l'Esprit de Dieu, dans l'Église, peut établir des ministères, c'est seulement là que la possibilité est donnée que Dieu bâtisse son Église. Peut-être que c'est ainsi qu'en ce moment, quelqu'un peut-être a une autre opinion, mais c'est pas autrement que ça. Encore dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, au verset 28, il est écrit, et lorsque... 1 Corinthiens 12, verset 28, dans l'Église, premièrement des apôtres, des prophètes, troisièmement des docteurs, etc. Là où Dieu bâtit une Église, il établit des ministères. Et les ministères qui servent à l'édification... qui sont nécessaires à l'édification de l'Église, pour la manifestation de l'Esprit. Et là où Dieu ne peut pas établir ses ministères, là, il y a toute autre chose qu'une Église. Ce n'est même pas une Église de Dieu. Et là, frère Branham a utilisé une parole qui était très difficile pour moi à traduire. Il disait, toutes ces choses, ces endroits ne sont pas des églises, ce sont des loges. Et vous savez ce que... c'est qu'une loge. On peut s'appeler église. On peut avoir les noms les plus bibliques. On peut s'appeler l'église de Philadelphie. Et ça existe aussi, ça existe même. Toute une confession qui s'appelle l'église de Philadelphie. Et de manière curieuse aussi, il y a aussi l'église d'Éphèse. Non, il y a toutes sortes de noms donnés à beaucoup d'églises. Mais ce que j'ai jamais rencontré, c'est une église qui se donne le vrai nom, qui se serait donné le vrai nom pour ce temps. Par exemple, l'église de Laodicée. C'était bizarre. L'église de la Philadelphie, j'ai déjà rencontré. L'église d'Éphèse, j'ai déjà rencontré. Mais quoi que nous vivions aujourd'hui, dans l'âge de Laodicée, j'ai jamais quelqu'un a pensé à appeler l'église à laquelle il adhère, l'église de Laodicée. On donne toujours des noms qui sont beaux et aussi expriment quelque chose de positif. Mais le nom seul ne servira à rien, n'apportera rien. Dieu veut maintenant produire ces choses en nous pour lesquelles l'église est une église, pour que sa parole, ses promesses qui sont sa parole, et avec nos actions soient en accord et en harmonie, telles que toutes les promesses qui faisaient référence à Christ Jésus, par ses œuvres, par ses actions, par sa vie, par sa marche, se sont accordées et ont reflété. C'est ainsi que la parole pour l'Église, et dans l'Église et avec l'Église, va aussi être en accord. Si par exemple, dans Ésaïe 35, il est écrit que votre Dieu viendra et vous apportera le salut. Alors les aveugles verront et les paralytiques sauteront comme une biche et les muets vont parler. Alors on a vu cela s'accomplir. Ésaïe 33, 35, on l'a vu s'accomplir dans le ministère de notre Seigneur. Et si ensuite il donne la promesse, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et encore de plus grandes que celles-ci, alors cela est une promesse. Et Dieu est lié à sa parole. Nous devons d'un côté ne plus donner de place à une autre pensée que la pensée de Dieu, les pensées de Dieu, et recevoir ces promesses-là dans notre cœur. Et nous ne pouvons pas avoir de doute. Nous ne devons plus ouvrir la porte au doute. Là où il y a la foi réelle qui est survenue dans notre cœur, il ne peut plus avoir de place pour le doute. Et par la prédication, notre foi, toujours de nouveau, doit être édifié et fortifié. Il est écrit que c'est par la foi que Dieu a établi sa demeure dans notre cœur. Éphésiens 3, versets 16 et 17. Et la foi est la victoire qui a triomphé du monde. Donc, 1 Jean 5, verset 4. Donc, celui qui vraiment croit la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, de son cœur, de son sein, des eaux vives couleront et doivent couler. Et notre Seigneur ici parlait de l'Esprit qui devait recevoir, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Pas que nous soyons obligés de pomper comme autrefois avec une pompe pour aller chercher de l'eau à la pompe. Et la plupart des puits sont de toutes les manières des puits crevassés, sans eau. Mais ici, il est parlé d'une source qui jaillit. Une source de la puissance de Dieu sous la prédication de l'évangile, sous l'écoute de la prédication de l'évangile. Que la parole, l'esprit et le sang puissent agir dans le croyant. Et nous savons très exactement que l'Église, à la fin, doit être et sera telle qu'elle était au commencement. Personne n'a besoin de me demander comment est-ce que cela aura lieu. Et cela sera possible. La réponse, c'est la parole elle-même qui nous la donne. Le Seigneur lui-même a dit, je bâtirai mon église, je restaurerai, rétablirai toutes choses. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, vous mangerez et vous vous rassasirez. Dieu a donné des promesses et c'est lui qui les accomplit. Ici, il est écrit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» 1 Corinthiens 3, verset 16. « Pas seulement que l'Esprit de Dieu soit venu une fois sur nous. » Et j'ai essayé d'exprimer cela une fois en comparaison entre David et Saül. Saül n'avait aucune parole de promesse, de la promesse. Il n'avait reçu aucune promesse de la bouche de l'Éternel. Il n'avait pas d'élection, de prédestination. Il n'avait pas de prédestination à prouver, à montrer. Il n'était pas élu ou bien prédestiné. Tout ce dont il avait, tout ce qu'il avait, c'était une onction qu'il avait reçue après que, en tant que roi, on l'avait choisi. Avec David, la chose était tout à fait différente. David ne voulait même pas être roi. Il était dans les champs. Ses autres frères étaient tous venus, l'un après l'autre. Ils étaient tous là, mais lui, il n'était pas présent. Quand l'homme de Dieu, quand Samuel est entré dans la maison, est venu dans la maison de Yesré, ou bien d'Isaïe, selon la traduction, le père de David, tous étaient là, mais pas David, que Dieu avait en fait choisi. Et Samuel, n'est-ce pas, lors du dernier, il a seulement pensé, bon, un moment, mais ici, j'ai la corne avec de l'huile, mais où sont tous passés? Seigneur, tu m'as envoyé dans cette maison. Je dois oindre l'un des fils. Tous les fils sont passés. Et je me tiens là, et ce n'est pas encore celui que tu veux. Parfois, cela semble être ainsi. Que tout soit déjà passé et que nous sommes là, je m'excuse cette expression, un peu idiot. Mais pas devant Dieu. Si nous avons vu passer tout le monde et que nous pensions que la chose est passée de côté, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Tout est échoué. C'est seulement maintenant que le moment arrive, quand on pense que tout est passé, c'est maintenant que Dieu peut agir et se révéler, Et révéler sa parfaite volonté. Quand David a été apporté, il n'y avait même plus de questions. Il a été oint. Mais Dieu l'avait prédestiné à cela. Dieu l'avait élu, choisi. Dieu lui avait donné les promesses. L'onction est seulement là pour une utilité éternelle là où la parole éternelle, en tant que semence dans notre cœur, a été placée. Sinon, on peut exercer tous les dons de l'esprit et nous glorifier de beaucoup de choses, mais le cœur reste vide. On doit être sincère. Et ça, on peut très bien l'observer et tirer la comparaison. Avec Saül, il n'y avait pas de changement de sa nature, malgré l'onction. Sa nature, j'aimerais même aussi utiliser cette vieille expression. Sa nature était vieille et froide, les deux. Vieille, restait vieille et froide. Avec David, c'était différent. David était dans la chose. Pour lui, ce n'était pas maintenant, bon, je suis un grand homme, un roi. Non, mais dans la crainte, David est entré dans le service parce que Dieu lui avait déterminé dans la responsabilité que Dieu lui avait donnée. Et vous savez que Saül, malgré l'onction, n'a pas perdu sa vieille nature. Et réfléchissez et faites attention à ce qui est dit. Si des gens qui ont l'onction peuvent prendre une lance pour tuer des gens pendant leur vivant, alors cela arrivera que eux-mêmes, ils vont se jeter sur la lance pendant leur mort. Ce n'est pas possible autrement. Il n'y a pas d'autre chemin à cela. Celui qui veut tuer l'autre sera tué de la manière avec laquelle il a voulu tuer l'autre. Qu'est-ce qui s'était passé? Saül, avec ses amis, on aurait pu dire, David, il aurait dû aimer David parce que Dieu l'avait aimé. Car il est écrit que tous ceux qui sont de Dieu aiment ceux qui sont de Dieu, qui sont nés de Dieu. C'est ainsi qu'un élu peut jamais, impossible, persécuter un autre élu, ou bien haïr, ou bien rendre la vie difficile. C'est impossible. Vous pourrez l'écrire sur toute une page, c'est pas possible. Personne peut dire être élu et puis faire ça. La semence de Dieu sera toujours liée avec la semence de Dieu. Et ce sera une harmonie divine dans notre cœur. Et si elle est dans notre cœur, alors elle est avec Dieu et aussi les uns avec les autres. Mais Saül, qui pendant sa vie, malgré son onction, voulait tuer, lui-même, il s'est jeté sur la lance quand son heure fut venue. Mais bien aimé, ça ce n'est pas seulement écrit pour que dans la Bible, plusieurs pages de plus puissent être lues. Toute écriture est inspirée de Dieu, c'est écrit, et est nécessaire pour enseigner, pour instruire, pour exhorter, pour corriger, pour que l'homme de Dieu puisse être parfait et être utile à Dieu. 2 Timothée 3, verset 16. Tout cela nous touche le cœur. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Est-ce qu'il habite en moi? Est-ce qu'il habite en toi? De Christ, le Fils de Dieu, il est dit que l'Esprit vint sur lui et resta sur lui. Resta. L'Esprit de Dieu doit pouvoir venir sur nous, mais doit aussi rester en nous, demeurer en nous. Doit pouvoir prendre sa demeure, habiter, nous habiter. Et chaque parole, chaque promesse, pour pouvoir la confirmer. Pour cela, il faut qu'il habite. Et ça, en tout temps. Nous ne laissons plus Dieu, si ce n'est qu'il nous bénisse tel qu'il l'a promis par sa grâce. Et nous ne pouvons rien faire d'autre que sans limite le croire et savoir que toutes les promesses qu'il l'a données sont oui et sont amen. Nous voulons, comme il n'y a pas longtemps nous disions, simplement être positif et penser positif dans les choses spirituelles et divines. Pas seulement en sortir ce qui est négatif. Ou bien dire, oui, mais si cela n'a pas lieu. Ou bien toujours, mais, et si. Mais croire, avoir la plénitude de la foi, la certitude. Et cette plénitude-là est adéquate là, de la foi, là où c'est Dieu qui a parlé. Quand des gens ont dit quelque chose, des hommes ont dit quelque chose, ou bien ont promis quelque chose, on peut le remettre en question, ou bien même le douter, parce que il faut que d'abord ce soit prouvé comme étant vrai. Mais la parole de Dieu est vraie avant même que Dieu l'ait confirmée. La parole de Dieu est éternellement vraie. Et devant nos yeux, elle sera confirmée. Le Seigneur veut faire de nous des hommes par qui il peut parler, par qui il peut agir, par qui il peut sauver, par qui il peut guérir. Vous avez dit, mais quoi? Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui fait toutes ces choses? Oui, absolument. Tout cela fait le Seigneur. C'est le Seigneur qui guérit, c'est celui qui sauve. Mais quand vous lisez les Actes des Apôtres, il est écrit, et par les mains des apôtres ont eu lieu des grands miracles et des prodiges et des signes parmi le peuple. Par les mains des apôtres. Qu'est-ce que c'était? Le Seigneur avait produit cela en eux et agi par ceux qu'il avait déterminés à exécuter un ministère en son nom. Et je crois que si nous recevons la parole de Dieu dans notre cœur et que nous estimons le Seigneur fidèle de confirmer sa parole, il le fera. Même les derniers témoignages de guérison que nous entendions mercredi, ils nous ont fortifiés dans la foi. Maintenant, il est écrit ici, au verset 17, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Toi et moi, nous sommes aux yeux de Dieu un temple de Dieu. Si quelqu'un, toi et moi, te détruit en tant que temple de Dieu, il ne pourra pas s'en sortir, si ce n'est que cette parole va s'accomplir en lui. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et la parole, la Bible n'est pas écrite aujourd'hui seulement, ou bien en raison des choses qui nous sont arrivées. Mais s'il est écrit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Saül voulait détruire David, tuer David, nuire à David. Dieu l'a permis, Dieu a fait en sorte que cela soit l'essence de sa main, que justement cette même personne qui voulait détruire David s'est détruite elle-même en se laissant tomber sur sa lance. Il dit, vous êtes le temple de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en vous, le verset 16, maintenant le verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Des hommes comme toi et moi qui ont été rachetés et qui appartiennent et qui appartenaient à Dieu, c'est par la présence de Dieu, par la sainteté de Dieu qu'ils ont été sanctifiés dans la vérité. Il n'y a pas une autre sanctification. Une autre sanctification n'existe d'une manière. Elle n'existe d'une manière pas. Elle n'existe pas. En tant que cette sanctification divine, par la présence, par la sainteté de Dieu, dans le cœur de ceux qui ont reçu en eux, dans leur cœur, la parole de Dieu comme étant vraie. Ils ont accepté les vérités de la parole de Dieu. Dieu ne vient pas dans ton cœur pour te confirmer, pour me confirmer. Non. Il vient dans ton cœur pour accomplir sa parole et confirmer sa parole. Il a donné les promesses et c'est lui qui les accomplit aussi. Là où elles sont crues, au verset 18, il est écrit que nul ne s'abuse lui-même, se trompe lui-même, se séduise lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Paul, dans une autre écriture, a dit que nous sommes des insensés. Vous êtes intelligents. Vous l'avez déjà atteint sans nous. Au chapitre 4, nous l'avons lu, n'est-ce pas, mercredi. Vous l'avez déjà atteint sans nous. Hein, vous régnez déjà. Il dit, si Dieu, que Dieu puisse permettre que cela soit vraiment ainsi, alors nous aussi, nous puissions aussi régner avec vous, si cela était vraiment ainsi. Nous pouvons le lire au chapitre 4, dans 1 Corinthiens 4, très clair. Mais, qu'est-ce que Dieu veut nous dire ici? Il veut nous dire que la sagesse de ce siècle, de ce monde, est une folie aux yeux de Dieu. Et si nous pensons savoir beaucoup de choses, et ce que nous savons, c'est toujours vrai, n'est-ce pas? Ce que les autres savent, c'est pas vrai, mais ce que nous savons nous-mêmes, c'est toujours vrai, n'est-ce pas? Pas devant Dieu. Devant Dieu est seulement vrai ce qu'il a dit dans sa parole. Et avec toi et avec moi, c'est seulement vrai si nous sommes en accord avec Dieu et sa parole, oui ou non? Pas plus tôt, pas plus tard. Sans mais et sans condition, bien mais. Avec Dieu, tout est en ordre, tout est correct, tout est vrai. Les paroles et les œuvres de Dieu sont en accord. Avec nous, ce sera seulement vrai si avec la parole de Dieu et avec Dieu et avec toi, avec moi, si tout est en accord avec la parole de Dieu et avec Dieu. C'est seulement comme ça que nous aussi, dans l'Église, nous verrons les œuvres de Dieu être manifestées. Je ne peux rien faire d'autre que de croire que sur la croix à Golgotha, un sacrifice parfait a été apporté pour aider à la perfection ceux qui viendront à la croix, ceux qui auront cru. Si le sang n'était pas parfait, l'agneau n'aurait pas été parfait, le sacrifice n'aurait pas été parfait, et nous non plus, nous ne pourrions pas être parfaits et perfectionnés. Mais parce que tout était parfait et venait de Dieu, était issu de Dieu, c'est pour cette raison que nous aussi, nous sommes ramenés à Dieu, l'origine de toutes choses, et aux yeux de Dieu, nous sommes aussi parfaitement rachetés par son sang purifié. Et son esprit, maintenant, veut habiter en nous. Encore une fois, la question. Est-ce que cela est ainsi dans notre vie? Est-ce que c'est seulement écrit dans les Saintes Écritures? Pas avant que cette parole et que les autres paroles vraiment se soient accomplies dans notre cœur, Dieu pourra se révéler. Pas avant. Il faut d'abord que cela doit soit devenu une réalité dans notre cœur. Il y a beaucoup de promesses dans les Écritures et nous l'avons déjà dit, mais il y a une seule de toutes ces promesses qui est appelée la promesse du Père. Avant que notre Seigneur soit monté au ciel, que ce soit dans Luc chapitre 24 ou bien dans Actes des Apôtres chapitre 1, il disait aux siens, attendez à Jérusalem jusqu'à que la promesse du Père se soit accomplie. Luc 24, et que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas jusqu'à que les promesses de Dieu se soient accomplies? Je crois que la promesse serait été aussi plus simple. Non, c'est pas possible. Ici, il s'agit de la relation des enfants à leur Père. Et de la relation du Père avec ses enfants. Dieu n'est pas seulement notre Dieu, il est devenu notre Père. Il nous a fait naître de lui de nouveau. Nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Et des enfants de Dieu. Et s'il est écrit que la promesse du Père doit être répandue sur tous, alors ça c'est le résultat. Le résultat est le suivant. Que cette promesse, justement, est répandu sur tous les enfants. Alors nous pourrons dire, Abba Père, si l'Esprit du Père dans notre cœur a été répandu, bien sûr, que c'est le Saint-Esprit, ça nous le savons tous. Car Dieu est un Dieu, j'ai jamais lu d'écriture où il est écrit qu'il serait deux. Il serait constitué de deux personnes. Mais c'est une chose que aussi Dieu doit nous révéler. Vous êtes le temple de Dieu. Et ensuite, que personne ne s'abuse lui-même. Verset 18. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, pense. Croyez-moi, ça peut être même être que nous ayons une plénitude de sagesse et qu'avec notre sagesse, nous voulons la déverser sur d'autres. Et alors, qu'est-ce que nous avons fait? À quoi est-ce que cela... Quelle utilité nous avons apporté aux autres? Chacun a assez de propre sagesse. Non, Jésus-Christ doit être pour toi justification, sanctification, rédemption et sagesse. 1 Corinthiens 1, verset 30. Et si cela s'est passé pour toi, alors toute notre propre sagesse est passée. Il est pour toi devenu sagesse, justification, sanctification et rédemption. Et Dieu sera glorifié et accordera ces choses. Au verset 19, il est écrit, « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » 1 Corinthiens 3, verset 19. Aussi est-il écrit, « Il prend les sages dans leur ruse. » Et encore, dans une autre écriture, « Le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. » Ça, c'est la sainte parole de Dieu. Ensuite, il est écrit au chapitre 4, ce que nous avons déjà lu mercredi, pour un verset, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun administrateur, dispensateur, soit trouvé fidèle. D'un côté, nous devons être fidèles en face de Dieu, envers Dieu, devant lui. Et d'un autre côté, n'est-ce pas, les hommes veulent, n'est-ce pas, entendre ce qu'ils veulent bien entendre. Non, ça, c'est pas possible. Pas après que Dieu nous ait parlé. Et si on lit l'Ancien Testament de manière chronologique et qu'on reconnaît le sens, d'abord, il y avait le temps des juges, et il est écrit du temps des juges que chacun faisait ce qui lui plaisait. Dans Juges 21, 25 et 17, 6. Ça, c'était du temps des juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il disait à l'un, chacun se disait ce qu'il voulait, etc. Mais cela n'est pas valable devant Dieu. Dieu a un plan avec son Église. Et le temps est passé de faire ce qui nous semble bon. Et j'ai eu souvent à le dire. Si... Est-ce que Frère Balaam aurait nécessaire besoin de se laisser plaire tout ce qui faisait alors que pendant le vol de Bombay à Rome, je lui parlais de Frère Balaam et il a trouvé rien de bon à dire qu'il était complètement faux et il a dévié dans les derniers jours. Je lui ai dit, mais il a dévié de qui? Oui, il a parlé de la semence du serpent et tout ça. Et je lui avais raconté. Le même homme, après quelques... Et 30 minutes plus tard, il a été lui-même sur ses genoux. Et les premières paroles qu'il a dit, « Seigneur, pardonne-moi de ce que sur ton serviteur frère Branham, j'ai porté un jugement. Je te remercie de ce que tu m'as fait rencontrer un homme que je connaissais personnellement. » Les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Ils sont à leurs propres yeux sages et ils pensent pouvoir transmettre aux autres leur sagesse. Dieu est au-dessus de notre sagesse. Vous savez que personne ne peut expliquer Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut expliquer Dieu et qui voudrait le faire. Ce n'est même pas nécessaire. Paul a rendu la chose pour lui très simple. Il a dit, Dieu est manifesté dans la chair, justifié en esprit, et prêché dans le monde, et apparu aux anges, prêché dans le monde, et reçu dans la gloire, avec foi. Et avec cela, Paul avait déjà résumé tout. Et les théologues, avec leur sagesse, ils se brisent la tête. Et ça semble pour eux qu'un verset contredit l'autre. C'est pas comme ça dans la Bible. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Jamais. La contradiction est dans leur tête. Dans la Bible, tout est en parfaite harmonie. Dieu a une église. Et dans cette église, il a établi des ministères. Et c'est par ces ministères-là que Dieu lui-même agit et parle dans l'Église. Et que l'Esprit se manifeste. Et ça, je l'ai dit, et c'est selon la parole de Dieu. Si le Seigneur, au commencement, a établi les différents ministères dans l'Église, et que Dieu absolument, dans son œuvre, est parfait, alors il faut que l'Église, telle qu'elle était au commencement, jusqu'à la fin, reste dans la même Personne peut me dire à Séoul que le temps des apôtres est passé et que tout cela n'existe plus. Cela n'est pas valable. Pour nous, est seulement valable ce que Dieu a dit dans sa parole. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilisation commune. Alors, si nous ôtons de la Bible ce qui n'est pas en accord avec notre concept, alors qu'est-ce qui nous reste alors? Une chose qu'on a fabriquée de nous-mêmes. Et que c'est cela que, avec cela, on va aller au ciel et que Dieu va nous prendre pour aller au ciel. Ça, on ne peut pas le croire nous-mêmes. Si nous voulons aller dans la gloire de Dieu, il faut que nous puissions respecter l'ordre de Dieu dans sa parole. Et nous devons pouvoir dire, voici l'ordre divin. Et Paul écrit aux Corinthiens. Il dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix et d'ordre, comme dans toutes les églises. Il enseigne. Dieu est un Dieu d'ordre. Et là où l'ordre divin existe, là aussi il y a la paix divine. Et là où il y a la paix divine, il y a la communion par le Saint-Esprit parmi les croyants. Alors là, Dieu se sent bien, car il est notre paix, c'est ainsi que c'est écrit. Il a ôté, il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il a ôté tout cela. Détruit cela, ou cela existe encore. Ça veut dire que cela n'a pas encore été détruit et ôté. Si l'inimitié et l'amiosité et tout cela, la haine et tout cela, la fausseté, ça veut dire que ça n'a pas encore été ôté. Mais il a ôté, il a détruit. Mais la question est la suivante. Est-ce que aussi dans ton cœur et dans mon cœur, cela a pu être ôté et détruit? Est-ce que Il a pu te donner à moi et à toi ce qu'il a accompli à Golgotha, c'est la question. Que ce soit détruit et ôté, ça c'est vrai. Et avant que ce qui s'est passé juste à Pentecôte, avant cela nous ne pourrons pas expérimenter ce que les croyants ont expérimenté dans Actes apôtres 2, être rempli de cet esprit. Tant qu'il y a encore de l'inimitié et de la séparation et toutes ces choses. Il faut que nous soyons blottis en un coin et restez là jusqu'à ce que le Seigneur nous aide. Nous devons dire, Seigneur, nous voulons tout ce que tu as accompli pour nous, que ce soit à Golgotha ou bien à la Pentecôte, tout ce que tu as préparé pour nous, nous voulons et nous devons le recevoir pour pouvoir être enlevés. Nous ne pouvons pas comme ça continuer à vivre comme jusqu'à maintenant, penser que tout va bien sans ces choses. Sans que ces choses soient détruites et ôtées de nous. Dieu veut nous établir dans le ministère. Vous savez que le Seigneur Jésus est né en tant que fils de Dieu. Il était fils de Dieu avec tout. Il était fils de Dieu le jour de la naissance. Il était fils de Dieu à 12 ans. Mais il fallait d'abord, avant d'être établi dans le ministère, avant que les Écritures commencent à s'accomplir par lui, l'Esprit de Dieu vint sur lui. En forme d'une colombe. Et c'est après la puissance Saint-Esprit qu'il a recommencé son ministère. Alors qu'il fut déjà né en tant que fils de Dieu et il était déjà fils de Dieu avant. Mais c'est quand il devait être placé dans le ministère que le ciel s'est ouvert. Et que le baptême d'eau ne suffisait pas. Le Saint-Esprit vint sur lui. Est descendu sur lui. Le Saint-Esprit s'est répandu sur lui. Quoiqu'il était fils de Dieu avant cette expérience. Je le répète encore une fois. Il est né fils de Dieu. Engendré par cet esprit et vécu plusieurs années. Mais quand le ministère devait commencer, là, le Saint-Esprit vint sur lui. Sur lui. Et c'est par l'Esprit de Dieu qu'il a été conduit dans le désert et qu'il a été conduit plus tard. Et en sortant du désert, il est sorti avec la puissance Saint-Esprit. Et c'est après qu'il pouvait dire, revêtu de la puissance de l'Esprit. Luc 4, verset 14, il s'est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, peut-être verset 17 et 18, alors qu'autrefois, il avait ouvert le livre d'Ésaïe. C'est comme ça que le ministère de Jésus-Christ a commencé. Et il pouvait dire plus tard, cette écriture que je viens de lire est accomplie devant vos yeux. Et je suis convaincu que le ministère de Jésus-Christ va s'accomplir de la même manière. Par l'Église, sous la même onction du Saint-Esprit, par la même puissance, nous pourrons ouvrir les Saintes Écritures et avec nos yeux voir l'accomplissement de ce que nous sommes en train de lire. Autrefois, l'Ancien pouvait dire, aujourd'hui, cette Écriture est accomplie devant vos yeux. Et nous aussi, nous vivons dans un temps dans lequel les Saintes Écritures devant nos yeux s'accomplissent. Et Dieu veut nous placer, nous établir dans son ministère. Avant de pouvoir le faire, il faut que l'Esprit de Dieu se répande sur nous et que nous soyons revêtus de la puissance là-haut. La puissance de Dieu doit être dans notre cœur et elle doit se répandre, pouvoir se répandre par nous sur d'autres. Même si le Seigneur a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres. Mais il était malgré tout là-bas, pendant que ces œuvres-là se faisaient, et tout ce que les gens voyaient, c'était le Seigneur. Ils n'ont pas vu Dieu, ils n'ont fait que voir le Seigneur. Ils ne pouvaient pas voir Dieu. Et Dieu était caché en lui, et a fait toutes ces œuvres par lui. Il faut que aussi nous puissions arriver à cet état. Peut-être que les gens diront, mais là il y avait un frère tel et tel, non? Il n'y avait pas seulement un frère. Il y avait le Seigneur dans un frère. Combien de fois nous avons vécu cela dans les prédications, dans les réunions de Frère Branham? Ce n'était pas ce petit homme-là qui était 1,70 m à peu près. Même pas. Mais c'était Dieu qui était venu avec lui dans la réunion. C'était Dieu qui habitait, qui demeurait en lui, qui avait pris sa demeure. C'était Dieu qui l'avait appelé, qui l'avait envoyé, qui l'avait appelé et qui était allé avec lui, qui allait devant lui, derrière lui, en lui, comme le prophète, Ésaïe disait, qui était derrière lui. Dieu veut faire la même chose dans ce temps. Nous ne sommes pas comme ça des petits-enfants. Nous avons un plein droit aux promesses de Dieu, mais nous ne pouvons pas venir comme les petits-enfants font, et frapper le sol avec nos pieds, et dire, maintenant je veux avoir ça, et pleurer, maintenant je veux avoir ça, je veux rien. Non, on ne vient pas comme ça devant le Seigneur. On vient comme ça quand on n'a pas de vue, on n'a pas de compréhension. Dieu n'est pas obligé de nous donner des choses. Mais si nous sommes adultes, nous ne venons pas à Dieu avec des exigences, mais nous apparaissons devant lui dans la crainte. Nous lui déversons notre cœur. Nous parlons avec lui tel que nous l'avons dans le cœur. Et il nous comprend dans la douceur de notre prière et nous accorde ce dont nous avons besoin et nous accorde même plus. Je ne sais pas si mercredi soir, vous l'avez observé, je ne sais même pas si maintenant, qui est-ce que c'était qui a prié à haute voix. Je ne sais pas qui est-ce que c'était. Je ne sais pas jusqu'à maintenant, mais vous l'avez remarqué. C'était l'Esprit de Dieu qui agissait. Et je vous demande une chose. Si l'Esprit de Dieu commence à agir, on n'a pas besoin de gens pour observer ou bien de spectateurs. On a seulement besoin de personnes qui reconnaissent que Dieu maintenant agit là et qu'il veut agir et qu'il veut se manifester. Alors nous devons suivre et commencer aussi à louer et exalter le Seigneur. La plupart ont été remplis de cet esprit, pas pendant qu'ils demandaient l'expérience, parce que ça c'est une promesse qui de toute manière nous appartient déjà. Mais ceux qui ont été baptisés de cet esprit, ce n'est pas ceux qui l'ont demandé, c'est ceux qui ont reçu avec Dieu la relation par l'œuvre de Golgotha et ont commencé à remercier Dieu pour l'œuvre accomplie de la rédemption. Ils ont commencé à le louer et à l'exalter. C'est sur eux que l'Esprit de Dieu se répand et confirme ce qui s'est passé pour eux à Golgotha. Que maintenant, dans ton cœur et dans mon âme, ça produit son effet par la foi. Alors Dieu vient comme frère Branham le dit dans la prédication, avec sa vie, par son esprit, dans le troupeau racheté par le sang et habite. La rédemption a eu lieu par le sang de l'agneau. Le pardon de toutes les fautes et de tous les péchés. Mais la vie de Dieu lui-même vient en nous par le Saint-Esprit. Revient sur nous par le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous avons besoin des deux. La parole, pour savoir ce que Dieu a promis, et le sang, et son action, l'esprit et son action, pour que la parole de Dieu dans tous les domaines, dans chaque domaine, dans tous les domaines de notre vie, par toi et par moi, par l'Église, en tant que vraie, la parole de Dieu, l'Évangile, soit confirmée, pour que les hommes ne soient pas en train de devoir poser la question, mais où est votre Dieu? Notre Dieu n'est pas seulement au ciel. Ça, beaucoup peuvent le dire et ils ont raison. Mais si Dieu était seulement au ciel et qu'il n'avait pas habité dans ton cœur et dans mon cœur et qu'il n'habitait pas et que par ma vie et par ta vie, il ne pouvait pas agir, alors le ciel est pour toi encore un peu très éloigné. Il faut que le ciel soit sur terre, là où Dieu habite. Et nous savons qu'en Christ, c'est Dieu qui est descendu sur terre. En Christ, Dieu et l'humanité ont été réconciliés. C'est pour cette raison que Jésus-Christ était les deux. Il était le Fils de l'homme, il était le Fils de Dieu. En lui, toute l'humanité a été unie et réconciliée avec Dieu. Mais il faut que cela nous soit révélé. Et cela en tant qu'une révélation vivante par l'Esprit de Dieu, que nous puissions saisir cela. Pas une chose dans laquelle nous voulons entrer, mais une chose dans laquelle nous avons été placés par Dieu, introduits dans Dieu. La rédemption n'est pas ce que toi et moi, nous allons encore produire ou faire, ou bien avons déjà produit. Non. La rédemption est une œuvre accomplie de Dieu sur la croix à Golgotha. Dieu, c'est là que Dieu a fait l'alliance avec nous. Si, dans la foi, nous saisissons cela, et acceptons, et disons, Seigneur, nous voici, c'est que nous, il est question de nous dans le rouleau du livre. Nous voici. Nous acceptons de notre cœur que ta volonté soit faite. Alors, cela aura lieu avec nous. Mais nous devons ouvrir notre, délier notre langue, je veux dire, ouvrir notre bouche et louer le Seigneur, lui apporter notre action de grâce que nous lui devons pour l'œuvre accomplie de la rédemption. Car c'est dans la louange que la relation est rétablie avec Dieu. Et c'est de cette relation à Dieu que la bénédiction se déverse sur nous. Dieu ou bien Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pas seulement au ciel, ça aussi, mais en toi et en moi. La Bible dit les deux. La Bible dit qu'il est monté au ciel, il est assis à la droite de sa majesté de Dieu. Et attend jusqu'à tout ce que tous ses ennemis sont placés sous son marchepied. La Bible dit exactement aussi, la Bible dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pas seulement au ciel, mais en toi et en moi. Cette parole n'a pas le droit d'être seulement écrite dans la Bible. Il faut que tout ce qui est écrit devienne ton et mon expérience, parce que ces choses, nous les avons expérimentées personnellement dans notre cœur. Nous ne pouvons pas seulement lire et lire toute notre vie ces promesses. Il faut qu'elles deviennent une réalité et qu'elles s'accomplissent dans notre vie. C'est ainsi que le monde saura que Dieu est avec nous et qu'il confirme sa parole qu'il a donnée. Nous n'oublions pas ce texte. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, verset 16. Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi et en moi? Est-ce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu comme nos frères et nos sœurs l'ont reçu dans la chambre haute? Alors, ce qui s'est passé autrefois va se répéter avec nous dans Actes des Apôtres chapitre 2. Et quand on lit les Actes des Apôtres, on doit dire, mais oui, tout cela se passe parmi nous. C'est une répétition alors de ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres, ce qu'on peut déjà lire. Alors cela va se répéter avec nous. Et le frère Branham dit dans cette prédication, la restauration, à chaque fois que Dieu fait quelque chose de nouveau et que l'Esprit de Dieu agit, on peut encore écrire un autre acte des apôtres. Et cela est vrai. Là où la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, où ils peuvent agir, l'Esprit et la parole, alors ils peuvent se révéler. On peut relire, on peut réécrire des actes des apôtres. Et on se retrouve dans les Saintes Écritures. Dans les actes des apôtres et dans ce qui a été décrit dans les actes des apôtres, on peut le voir se répéter dans notre vie. Le Seigneur a établi dans l'Église. Et aujourd'hui encore, il y a tout un nombre qui disent, oui, Dieu a envoyé un prophète. Et maintenant, c'est fini. Le prophète est décédé. Si c'était ainsi, ce serait bien. Alors, nous serions déjà auprès du Seigneur. Mais, nous sommes encore ici. Et qui veut oser, n'est-ce pas, renverser l'ordre de Dieu, l'ordre divin? Non. Dieu a établi dans l'Église les différents ministères. Lisez cela dans Éphésiens chapitre 4. Pour quelles raisons les différents ministères ont été établis? Pour que les saints soient perfectionnés en vue du ministère de l'Église. Ministère, frère Franck dit, du ministère dans l'Église. Et c'est pour cela que les ministères sont là. Et nous avons une chose à dire. Seigneur, tu as raison. Ta parole est la vérité. Nous croyons ce que tu as dit, que tu puisses toi-même à ton Église ajouter et bâtir ton Église et ordonne tout, mettre tout en ordre dans ton Église, établir les ministères pour la manifestation de l'Esprit, pour l'utilisation de commune, que tu puisses accorder ces choses, que nous puissions de nos propres yeux voir comment est-ce que Dieu ajoute des hommes à son peuple, comme il le faisait dans Actes des Apôtres. Comme lui, il ajoute. Pas comme toi et moi, nous ajoutons, mais comme c'est écrit dans Actes des Apôtres. Tous ceux qui ont cru furent ajoutés au peuple de Dieu. C'est ainsi que c'est écrit. Et Dieu ajoutait tous les jours ceux qui avaient cru, qui étaient sauvés. Dieu ajoute. Quand est-ce qu'il ajoute? Quand l'Église a été apportée dans l'ordre divin. Il a ajouté quand la Pentecôte avait eu lieu et que le Saint-Esprit s'était répandu, s'était effusé et que l'Église avait reçu son devoir et l'exécutait. C'est là que Dieu a ajouté. Et la même chose, il le fera de nouveau encore. Lui, il n'a pas changé. Et sa parole non plus reste la même. Aujourd'hui, nous voulons prier. Pas dans l'incrédulité, pas dans le doute, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous venons à notre Père céleste. Et nous lui disons merci pour toutes les bontés, pour le salut, pour la guérison, pour la protection, pour la bénédiction, pour sa parole révélée, pour le sang de l'agneau, pour tout ce qu'il a fait. Et nous nous ouvrons devant lui et nous disons, Seigneur, nous attendons que tu confirmes maintenant ta parole en nous. Et que ce ne soit pas seulement que nous la lisions ici dans la Bible, mais comme toi, ce que tu as lu, tu pouvais dire, cette écriture est accomplie. Donc, tout ce que nous lisons, qui nous concerne aussi, que une relation avec nous soit rétablie et que nous puissions expérimenter personnellement ce que nous pouvons, ou bien ce que nous avons lu dans la Bible, que nous puissions aussi le dire, cette écriture est accomplie. Dieu est capable de le faire à tous ceux qui viennent à lui et qui lui font entièrement confiance, qu'ils puissent aujourd'hui continuer les deux à agir par son esprit et à parler par sa parole. C'est ma prière. Amen.